On aime ça, les belles histoires dans le monde du sport comme ailleurs. Puis il y en a une belle histoire qui pointe à l'horizon et ça se passe chez les Nationals de Washington qui ont fait l'acquisition de Yadiel Hernandez. C'est un voltigeur recru, mais c'est une recrue âgée de 32 ans. Comme quoi, il n'est jamais trop tard pour vivre son rêve d'atteindre le plus haut calibre dans le sport que tu pratiques. Et là, évidemment, ça se passe dans le baseball. Alors, on va aller tout de suite rejoindre notre ami Alex Agostino. Bonsoir, Alex.
Bonsoir, Mario.
Ça rappelle, et d'ailleurs, le gérant Dave Martinez, un ancien expo, disait que ça lui rappelait l'histoire de Jim Morris, un lanceur de relève qui a été à l'origine d'un film qui s'appelle The Rookie. Il y a peut-être bien des auditeurs qui l'ont vu, ce film-là.
Ah, sûrement beaucoup de gens qui l'ont vu, The Rookie. C'est l'histoire de Jim Morris, un lanceur gaucher repêché qui prend sa retraite à 21 ans, devient prof, si je ne me trompe pas, de sciences maths, éducation physique. Coach l'équipe de baseball. Une couple d'années plus tard, son bras est en forme. Il décide d'aller à un camp d'entraînement des Rays de Tampa. Tout d'un coup, il lançait 95 000 à l'heure. Puis une couple d'années plus tard, il était dans les ligues majeures à l'âge de 35 ans. Et aujourd'hui, c'est un gars qui travaille sur la motivation avec les jeunes. Une belle histoire, mais l'histoire du jour, c'est Yadiel Hernandez. C'est un Cubain. Oui, il devient une recrue de 32 ans lorsqu'il a fait sa première présence sur les sentiers l'autre jour comme coureur suppléant. Mais ce n'est pas une recrue dans le baseball. C'est un gars qui a joué dans la série nationale cubaine pendant 5-6 saisons. Un gars de 5 pieds 9, 185 livres, pas le plus gros bonhomme, une dizaine de circuits par année. Mais il y a une chose qu'il a toujours fait, et c'est pour ça que les Nationals l'ont signé à l'âge de 29 ans, c'était qu'il frappait. C'est un gaucher qui pouvait frapper la balle un peu partout sur le terrain, pas nécessairement de la puissance extraordinaire, bonne présence sur les sentiers. Puis à sa dernière saison dans la Ligue Division 1 à Cuba, il a frappé tout près de 3,70 avec une moyenne de présence sur les buts de 500. Il a quitté l'équipe nationale lors d'un tournoi en Caroline du Nord parce qu'il était tanné, je crois, de pas avoir la chance de signer un contrat professionnel. Une année plus tard, il signe avec les Nationals pour 200 000. C'est des peanuts, ça, dans le baseball international, parce qu'il y a beaucoup de Cubains qui n'ont pas eu des grosses carrières, ont signé pour beaucoup d'argent. Et il a débuté sa carrière professionnelle mineure en Amérique du Nord à l'âge de 29 ans. Il a commencé tranquillement, mais tout ce qu'il a fait depuis 2 ans et demi, c'est frappé. L'an passé, la puissance est maintenant arrivée. Il a frappé 33 circuits dans la Ligue de la Côte-Pacifique, qui est une ligue de frappeurs, mais quand même, il faut le faire. Frappé tout près de 300, et là, il a sa chance. Et Dave Martinez, il l'a mentionné, il dit, quand je l'ai rencontré, quand il est arrivé à Washington, il avait de l'eau dans ses yeux. C'est une belle histoire, c'est quelqu'un qui n'a jamais abandonné son rêve. On espère lui donner l'opportunité. Il a été un peu bloqué la dernière année parce que tu avais des jeunes vedettes comme Juan Soto et Victor Robles qui bloquaient l'espace. Et là, tu as une blessure, un coude à Soto qui va probablement être un peu plus souvent sans peur de choix. Harry Kendrick qui est blessé, ça donnera une opportunité à Hernandez de se faire valoir parce que c'est pas une grosse année pour les champions défendants de la série mondiale. Ils ont commencé comme ils ont débuté l'an passé. Puis tu l'as dit dans ton intro, c'est, tu sais, il n'est jamais trop tard. Puis le baseball, là, c'est pas comme les autres sports. C'est un gars qui arrive dans la Ligue nationale à 19-20 ans, des Crosby de ce monde. Tu sais qu'est-ce que tu vas avoir de McDavid à tous les jours. Il y en a que ça dure 2 ans au baseball majeur. Il y en a d'autres que ça clique plus tard. Dans le cas d'Hernandez, ben, c'est un gars qui a été pas nécessairement une vedette cubaine, mais un gars qui jouait, c'est pas le même calibre que le baseball majeur, qui a toujours été au poste. Puis ce que les Nationals ont dit, c'est qu'on l'a pour son bâton. Peut-être qu'on a besoin de lui, un frappeur suppléant, un gars qui peut mettre la balle en jeu du champ gauche jusqu'au centre droit, et la puissance commence à arriver. Des fois, tu as juste besoin d'une opportunité. Tu as peut-être 32 ans, mais si tu prends bien soin de ton corps, tu es capable d'encore jouer au baseball. Puis avec le frappeur désigné, d'après moi, qui s'en vient à temps plein rapidement dans le baseball majeur d'ici les prochaines années, on l'a cette année, ben pourquoi pas un gars de même qui peut te donner 3-4 bonnes saisons? Parce que des frappeurs, là, ça pleut pas. Des frappeurs qui sont naturels, qui sont capables de faire le travail, super. Moi, je trouve que c'est une histoire belle fun. Même si c'est les Nationals, on va être content pour Yadiel Hernandez.
Même si c'est les anciens expos, t'as raison. Puis l'autre affaire, toutes équipes confondues, je pense que ça sème une bonne ambiance dans une équipe que d'être témoin de près d'une histoire comme celle-là. J'envoie un bon message à tout ton monde dans les ligues mineures aussi, dans quelque sorte. Alex, juste pour compléter un petit peu là-dessus, là.
Oui, ça donne un message d'espoir, je pense. Ça donne un message que ça dérange pas si t'as été signé en première ronde pour 4 millions. C'est un choix de 22e ronde, puis tu as signé pour moins d'argent. L'opportunité est là. Puis quand tu vois un gars de même qui est tout simplement heureux d'être au stade, arrive avec le sourire malgré qu'ils sont en dernière position, peut-être que ça donne le goût aux autres de se dépenser un petit peu plus lorsqu'ils sont sur le terrain.
Exactement. Maintenant, il faut revenir sur une des grosses nouvelles de la semaine dans le monde du baseball. On a parlé du décès de Tom Seaver la semaine dernière. Cette semaine, nous perdions Lou Brock, un grand parmi des grands.
Lou Brock est définitivement un grand dans les années qu'il a joué, un gars qui était un voleur de but extraordinaire. On lui a déjà demandé pourquoi tu voles des buts, puis sa réponse c'est parce que je peux à n'importe quel moment, puis personne ne peut m'arrêter. Mais en plus, c'est un gars qui a participé à 3 séries mondiales. J'ai regardé ses statistiques, c'est tout près de 400 de moyenne au bâton durant les moments importants. C'est un gars qui a été échangé des Cubs. Ça ne passera pas à l'histoire pour les Cubs de Chicago. Il est devenu une vedette, un héros. Il n'a pas eu facile au début de sa carrière, mais c'est un gars qui a été sur le terrain tout le temps. C'est quand même un gars qui a révolutionné un petit peu le baseball. La vitesse, oui, on en avait plus dans le temps, mais c'est un gars qui, quand il embarquait sur les sentiers, tu savais qu'il s'en allait au deuxième, puis plus souvent qu'autrement, au troisième but aussi. C'était une vedette à Saint-Louis. C'est un bon gars sur le terrain, mais c'était aussi un bon gars à l'extérieur du terrain. La plupart la nouvelle génération des Cards de Saint-Louis ont toujours eu un grand respect pour lui. Puis j'ai vu une petite entrevue avec lui et Yadier Molinov là, une couple d'années où les deux se sont fait demander est-ce que Lou Brock pourrait voler un but ou est-ce que Yadier, tu pourrais l'arrêter? Et la réponse des deux était simultanée et c'était le respect envers l'autre. Les deux ont dit ça dépend du lanceur. Alors, on ne voulait pas faire mal paraître un ou l'autre. Alors, un grand départ dans l'organisation des Cards de Saint-Louis, mais pour le baseball majeur, on voit que les gens vieillissent, ils ne sont pas immortels comme on le pense.
Évidemment.
Mais c'est quand même des gens qui ont donné beaucoup, beaucoup d'entertainment aux gens dans le coin de Saint-Louis. Puis,
3023 coups sûrs dans 19 saisons, 938 buts volés, c'est du stock. Et pour la petite histoire, je ne sais pas si tu le savais, sans doute, toi qui es une encyclopédie de baseball sur deux pieds, Alex, mais Lou Brock a été, en tout cas selon ce que je lis dans l'article qui lui est consacré sur Wikipédia, a été le premier joueur de baseball à effectuer une présence dans un match au Canada, le match d'ouverture local des Expos de Montréal, en avril 69, le 14 avril 1969.
Oui, j'avais lu ça et aussi une couple d'années plus tard, après sa retraite, il a aussi été un entraîneur invité au camp d'entraînement, puis il a déjà porté l'uniforme comme spécialiste pour les vols tueurs et les vols de but. Je ne me rappelle plus quelle année, mais on a vu Lou Brock tenter d'enseigner aux jeunes vedettes qui avaient de la vitesse avec les Expos de Montréal. Des fois, les équipes font ça avec leurs anciennes légendes, mais les Expos n'ont volé un ce côté-là pour amener Brock. Je ne me rappelle pas exactement l'année, mais il y a des photos avec Brock dans l'uniforme des Expos au camp d'entraînement à West Palm Beach en train d'enseigner dans les ligues mineures et au niveau des camps des majeurs. Alors, c'est le fun parce que quand tu dis ça, ça dit ce qu'on manque, ce qu'on s'ennuie.
Mais,
c'est le baseball à Montréal. il y a eu des équipes américaines qui s'en venaient, mais écoute, c'est des joueurs qui ont passé. Dans le temps, c'était Babe Ruth, dans les années, je ne sais pas trop quoi, 20, qui ont fait des tournées à Toronto puis à Montréal. C'est bien avant nous autres, mais on a eu du bon baseball ici, puis en espérant en avoir encore plus dans le futur.
Un morceau d'histoire pour le match d'aujourd'hui entre les Rays de Tampa Bay et les Red Sox de Boston. En as-tu eu vent d'un alignement entièrement composé de frappeurs gauchers pour les Rays de Tampa Bay contre le lanceur droitier Andrew Triggs? Avais-tu déjà vu ça, juste des gauchers?
Non, parce que tu sais, t'as souvent plus de droitiers juste en général, mais pas surprenant que ce soit les Rays, Mario, quand tu me dis ça, parce que moi, je suis un terrain au campus collégial à l'Université de Virginie pour une partie. Mais les Rays, c'est une équipe qui pense à ce qu'on appelle « outside the box ». Et quand ils ont assez de frappeurs gauchers, parce qu'on sait qu'on a un alignement de 28 joueurs maintenant, on a assez de monde pour faire ce travail-là. Je suis persuadé que toutes leurs statistiques et leur département de recherche et développement ont décidé que c'était l'alignement qui nous donnait la chance de gagner. Il faut le faire parce qu'il faut que tu aies quand même 9 frappeurs qui frappent de la gauche sur tes. La plupart des équipes ont seulement 13 joueurs de position sur les 28. T'en as 9 qui jouent puis 4 sur le banc. T'as plus des gros bancs. Puis là, d'en avoir 9 de ce côté-là, je veux dire félicitations aux Rays parce que c'est l'équipe qui tente par tous les moyens de gagner et ils le prouvent avec le moins d'argent investi dans les joueurs. Ils le font. Puis j'ai hâte de voir comment ça va se dérouler.
Exactement. Eh bien, Alex, sur ce, bonne fin de séjour là où tu es, en Virginie, dans un stade de baseball, évidemment. Une bonne soirée. À bientôt.
Merci beaucoup, Mario. Bonne soirée.
Merci, Alex. Alex Agostino, donc notre collaborateur baseball, dépisteur des Phillies de Philadelphie. Et on complète l'émission ce soir dans un instant avec Philippe Lagu sur la question de sport automobile. Grand Prix de Toscane disputé en fin de semaine. Bottas qui a dominé les essais libres, mais beaucoup d'autres sujets en marge de cette épreuve en fin de semaine. Donc, on revient avec Philippe dans un petit moment.